Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On est parfois en retard, mais l'information, l'actualité le justifiait avec cet échange que nous avions avec Evelyne Sirmarin il y a quelques instants. Donc on va rappeler les titres avec Amandine. Mais nous sommes déjà avec Monique. Bonjour Monique, qui écoutait notre Bonjour. Débat et qui voulait intervenir sur la peine infligée à Nicolas Sarkozy. Bonjour,
Bonjour qu'en pensez-vous Pascal. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Bah, écoutez, moi je ne suis pas surprise du tout. Je suis écœurée parce que de toute façon, ils veulent désinguer Nicolas Sarkozy. Ça c'est clair.
Écoutez, c'est sans nuance manifestement de votre part. Le rappel des titres, Amandine.
Et elle a eu une école sur 10 fermée ce matin à Marseille en cause un mouvement de grève du personnel municipal qui refuse le passage aux 35 heures. Conflit qui rappelle celui des éboueurs qui, lui, est en passe d'être résolu. Pour le syndicat majoritaire annonce avoir trouvé un accord avec la métropole. Concernant les fermetures de classes pour cause de Covid, cette fois, la tendance à la baisse se poursuit. On est aujourd'hui à 1692 classes fermées contre 2366 il y a une semaine. Et puis les associations de consommateurs plutôt satisfaites ce matin après les annonces hier de Jean Castex. Le bouclier tarifaire devrait, disent-elles, permettre de lisser la hausse et de soulager au moins pour un temps les ménages les plus fragiles. Côté politique, l'opposition dénonce un bouclier électoral. Petit coup d'œil à notre météo du week-end avec vous Valérie Quintin. Et c'est un week-end bien pourri.
Et encore, le mot est faible.
Ah oui,
ah bon
oui. Oh là là. On a une grosse dégradation qui va gagner le nord-ouest demain dans le courant de la matinée, d'ici la fin de la matinée, donc de samedi, avec des pluies soutenues, des vents forts, aussi bien sur les côtes que dans les terres. Les rafales atteindront 100 km/h près des côtes de la Manche et du nord-atlantique, 70 à 80 dans les terres, y compris en Île-de-France, en Normandie ou encore en Picardie. À l'avant de tout cela, dans l'est et dans le sud, encore un temps à peu près ensoleillé pour la journée de demain. On va avoir des pluies très soutenu dans la nuit de samedi à dimanche entre les Pays de Loire, le bassin parisien et les Hauts-de-France. Ça va vraiment être à surveiller. Et on va retrouver ce phénomène de fortes pluies orageuses dimanche après-midi notamment. On surveillera les Cévennes, l'Auvergne, la région Rhône-Alpes en montant jusqu'aux portes de la Bourgogne. Reste les températures, figurez-vous qu'elles seront un petit peu plus douces.
Ah bah oui.
On aura demain après-midi.
Ça va nous consoler beaucoup ça.
Mais oui, 18 degrés à Cherbourg et Paris, 19 à Reims, 22 à Nancy et Limoges, 25 degrés à Lyon, 26 à Bastia. Température 18 degrés de moyenne pour la journée de dimanche, 20 pour la journée de pour la moitié Nord, j'y arrive dimanche et 22 pour la moitié sud.
Merci beaucoup Valérie.
Merci Amandine, on vous retrouve ce soir.
Oui, ils refont la France, on refait l'actualité de la semaine avec les correspondants de la presse étrangère.
Il est 13h04.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Vous le savez, l'ex-chef de l'État Nicolas Sarkozy a été condamné à un an de prison ferme pour financement illégal de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2012. Chacun peut un jour se trouver confronté à l'injustice. Nicolas Sarkozy a accusé le tribunal correctionnel de Paris d'avoir bafoué le droit. C'est évidemment ce qu'il a déclaré, entre guillemets, ce que je vous disais à l'instant. Nous sommes avec Monique, qui voit un acharnement de la justice. Pourquoi,
on voit
Monique
absolument.
Pourquoi?
Mais ils ont fait pareil. Attendez, je vais juste faire un petit aparté. Ils ont fait la même chose avec Fillon, après la primaire. On attendait Juppé. Quand ils ont vu que c'était Fillon, allez hop, en 15 jours, il était déjà avec le PNF. Tout. Alors, donc Sarkozy, on revient à Nicolas Sarkozy, pour qui j'ai voté, d'ailleurs, j'ai pas honte de le dire, et je serais même prête à voter pour lui, vous voyez. Mais j'étais persuadée qu'il aurait plus que ce qui avait été demandé, parce que de toute façon, les juges, le PNF, bon, c'est pas le PNF qui l'a jugé, là, mais bon, de toute façon, n'importe comment, il l'aime pas, alors.
Alors, on est avec Thierry. Je crois que Thierry est procureur de délégué de la République.
DPR. Je suis juste délégué. Je suis pas du tout procureur ni magistrat. Je suis juste délégué.
Délégué.
Plus pour très longtemps dans la logique des
D'accord.
choses. D'accord. Parce que je vais arrêter. Mais voilà.
Et j'avais un échange à l'instant avec effectivement l'ancienne présidente du syndicat de la magistrature et je lui exprimais simplement qu'on puisse avoir des doutes. C'est tout. Moi, j'ai pas d'avis sur par définition. Je connais pas le dossier. Mais j'exprimais des doutes. Parce que, je citais le syndicat de la magistrature qui avait appelé à voter contre Nicolas Sarkozy, j'exprimais l'affaire Fillon, et là aussi on en pense qu'on en veut sur le fond, mais entre le moment où l'affaire sort dans le Canard enchaîné et le moment où le PNF est saisi, je crois qu'il se passe 24 ou 48 heures, on n'a jamais vu ça aussi rapidement. Que voulez-vous dire Thierry sur ces affaires et sur celle-là en particulier ?
Non, moi je dis que justement Sarkozy manque de probité et les magistrats ne manquent pas de probité. Ça, à mon sens, il est clair. Vous savez, je vais vous dire, je faisais partie du RPR pendant de longues années. Moi, j'ai été écœuré et dégoûté de voir qu'effectivement, on a bien prouvé A plus B que M. Nicolas Sarkozy a essayé de corrompre un magistrat en lui proposant d'aller à Monaco. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je veux dire...
Attention, c'est une affaire en cours, et c'est une affaire en cours, il est présumé innocent, et malheureusement, elle n'est pas jugée. Et je pense que vos propos pourraient, comment dire, tomber sous le coup de la diffamation. Donc, je me permets de les modérer parce que je...
Vous avez raison.
Comment dire, je suis contraint, si j'ose dire, de faire appliquer la loi, et ce que vous dites tombe peut-être sous le coup de la diffamation.
Non, vous avez tout à fait raison. Je dois me méfier, effectivement. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais bon, les faits sont là. Ils sont têtus.
Bah, les faits sont là. Ils ne sont pas jugés. Attendons le jugement.
Non, mais j'entends
bien. C'est l'interprétation des faits que vous faites.
Non, mais j'entends bien. Mais on a bien entendu ces bandes.
Vous avez entendu.
C'était pas lui.
Attendons. Je vous propose d'attendre de juger.
Ok, parfait. Très bien. Je retire tout ce que je viens de dire, effectivement. Effectivement. Il y a une présomption d'innocence et je l'entends bien. Maintenant, effectivement, moi je dis que les magistrats ont toute la probité et puis je comprends pas qu'on puisse dire que Nicolas Sarkozy puisse dire que les magistrats ont mal jugé, etc. Non,
Thierry, c'est ce que je vous disais. Pourquoi nous disons ça? Parce qu'il y a eu l'affaire du mur des cons. Vous pouvez pas l'ignorer. Et dans le mur des cons, il y avait la photo de Nicolas Sarkozy.
Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Forcément, ça jette le trouble sur l'impartialité des magistrats.
Déjà, il faudrait savoir si les magistrats qui étaient dans cette affaire sont au syndicat concernés. D'une part, premièrement, et c'est pas parce qu'un syndicat effectivement apparemment est de gauche que tous les magistrats sont de gauche.
Que des gens soient de gauche ou de droite, c'est pas le sujet. Mais si ça intervient dans leur fonction professionnelle, je rappelle que le syndicat de la magistrature, je ne l'invente pas, a appelé à voter contre Nicolas Sarkozy. Et je disais tout à l'heure, est-ce que c'est à un syndicat de la magistrature de faire de la politique dans cette manière-là? Je ne le pense pas. Mais on continue à en parler juste après la pause. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et bonjour à Laurent Tessier pour le dernier jour de la semaine. C'est vendredi. That's good, it's Friday.
Why? Do you speak English? Very well.
Vous aviez caché ça, Pascal?
That's good, it's Friday. C'est ce qu'on dit aux États-Unis.
Et en espagnol maintenant, parce
longtemps.
Qu'on est écouté aussi partout en Europe.
Je ne connais pas la langue de Cervantes.
On en restera là. Nicolas Sarkozy est-il victime, comme il le dit, d'un harcèlement judiciaire? La justice s'acharne-t-elle contre l'ancien président de la République? Nicolas Sarkozy a été condamné hier à un an de prison ferme. Est-il vraiment injusticiable comme les autres? Évelyne Sirmarin, ancienne présidente du syndicat de la magistrature, était l'invitée de RTL Midi.
Ce sont des collègues tout à fait indépendants. Et ce n'est même pas le parquet financier qui est accusé, lui aussi. Monsieur Sarkozy a affaire à la justice. C'est pas fini. Il va y avoir l'affaire des écoutes, on appelle.
Ça semble vous réjouir, madame.
Ah, pas du tout.
Nicolas Sarkozy a fait appel de sa condamnation. Il dénonce une injustice dans un message sur les réseaux sociaux.
Alors, nous étions avec Thierry et Monique. Alors, Monique, écoutez Thierry. Peut-être que Monique, vous étiez. Alors, le problème, Monique, c'est que vous connaissez pas le dossier.
Personne ne le connaît, le dossier, Pascal, je pense.
Bah, on le connaît sommairement. On le connaît sommairement.
Oui.
Donc, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, je le disais hier. Donc, Big Malion, c'est une agence de communication. Vous avez manifestement en parallèle les comptes de campagne du président, le compte de campagne du candidat Sarkozy. Et on va facturer les meetings à sa société de communication et non pas à je sais pas si c'était une association qui s'occupait de...
Ouais, mais c'est très compliqué ces trucs-là. Hein.
Oui, et puis je le dis tellement mal en plus que j'arrange pas les choses pour tout vous dire.
Non, mais de toute façon, la justice s'acharne contre Sarkozy, ça c'est
clair.
Oui,
mais il faut quand même un petit peu connaître les dossiers, vous comprenez?
Oui.
C'est ça qui est convenant. Et la difficulté, c'est que, en fait, j'ai le sentiment que vous défendez Sarkozy parce que vous aimez bien Sarkozy.
Ben évidemment.
Ben oui, mais bon, c'est un peu juste quand même intellectuellement.
Oui, mais de toute façon, il a pas volé l'État.
C'est pas très objectif.
Non, mais il a pas pris l'argent de l'État. Il a pas pris notre fric. C'est pas nos impôts.
Ben il a remboursé en plus. C'est ça qui est.
Alors, c'est ce que j'allais vous dire. En plus, il a remboursé. Donc ça va. Écoutez, alors, je vais quand même vous dire une chose, Pascal. D'abord déjà, ce n'est pas un assassin, Donc on lui file un an de prison, avec le bracelet. Bon, bref. Et moi j'ai mon petit neveu, vous le savez puisqu'on en a déjà parlé, qui a été tué par un chauffard. Qu'est-ce qu'il a eu le mec? Rien. Et mon petit neveu de 17 ans, il est mort depuis 3 ans. Hein? Alors finalement, c'est une justice à deux vitesses dans notre pays. Alors vous me direz que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre.
C'est des, d'abord,
mais
c'est
vous voyez quand
de...
même. Vous voyez quand même qu'il y en a un qui a tué un gamin avec sa bagnole, il a passé la ligne blanche, le gamin il est mort, il avait 17 ans, là il aurait 20 ans. Et Sarkozy, pour une histoire de Big Malion, là on va lui filer un an de prison, je trouve ça pas logique. Et quand François Fillon a été élu à la primaire, c'est ce que vous disiez, et moi j'ai dit 15 jours, vous avez dit 48 heures, mais attendez, en deux coups de cuillère à peau, ça y est, il était bon à abattre, tout ça parce que c'était pas Juppé qui était passé. C'est lamentable.
On va être avec Jacques qui habite le Jura et qui voulait intervenir sur ce sujet également. Mais Jacques, j'ai l'impression aussi, pour vous avoir eu parfois au téléphone, que vous êtes plutôt un pro-Sarkozy, donc quoi qu'il arrive, vous le défendrez. Bonjour Jacques.
Non mais moi, bien sûr, je suis un sarkozyste. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est les propos de Thierry d'avant. Quand on est délégué du procureur et qu'on affirme certaines choses, pour lui, il est déjà coupable. Ça me gêne un petit peu.
Bah, il va vous répondre parce qu'il vous écoute, mais finissez quand même votre argumentation,
oui,
Jacques.
Mais j'assume, hein, c'est ce qu'il a dit, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Non, mais moi, je savais qu'il allait être condamné. Au fond de moi-même, je savais qu'il allait être condamné. Mais c'est pas un problème de condamnation, c'est un problème de... ces juges, je pense, ont hier du sablé de champagne, d'ailleurs, en se disant « ça y est, on l'a eu ». Ça y est, on l'a eu. Bon, c'est vrai, ils l'ont eu. Ils lui ont mis un genou à terre, mais pour l'instant, il est présumé innocent, et le combat ne fait que commencer.
Alors Thierry, ce qui est intéressant aussi, c'est que, pour avoir suivi un peu cette histoire, le parquet, objectivement, le parquet, a dit qu'il n'y avait pas de preuves que Nicolas Sarkozy sache le montant des meetings qui étaient facturés. C'est un faisceau de présomption.
Déjà, dans un premier temps, bon, voilà, vous m'avez piégé parce que j'ai donné mon métier et que, alors, comme je l'ai dit juste avant,
je piège personne. Attendez.
Non, pas vous, mais bon, enfin, peu importe.
Bah, qui
le monsieur s'indigne parce qu'effectivement, j'ai dit ça tout à l'heure. C'était juste avec mon cœur que je le disais en tant que sympathisant, parce que moi aussi, j'ai voté pour Sarkozy et j'ai été extrêmement déçu. Voilà, c'est juste pour ça que je l'ai dit. Et qu'effectivement, j'ai été au RPR depuis de longues années. Enfin, bon, peu importe. Je retire ces propos. Je les retire. Voilà, il est présumé innocent. Je retire ces propos. Voilà. Maintenant, il faut distinguer. Il y a plusieurs choses. Il y a eu une décision de justice. Cette décision de justice, elle est suspendue parce qu'il a fait appel. On est clair là-dessus. D'accord ? Donc maintenant, il y a aussi le fait qu'il est normal qu'on puisse, enfin, on ne doit pas, une décision de justice, elle n'a pas à être commentée logiquement. Il y a que lui. Le fait qu'il ait dit dans la presse, oui, c'est pas normal, etc. Il y a une injustice. Je trouve pas ça très correct. Qui fasse appel, ok, mais qui disent qu'effectivement il y a des juges qui sont pas qui n'ont pas de probité. Je trouve ça un peu.
Il n'a pas dit ça non plus, mais vous pouvez quand même. Les justiciables ont le droit de se défendre.
Concernant l'affaire Fillon, je vous suis tout à fait sur le fait qu'en 48 heures ça a été le dossier il est venu au-dessus. Ça, je trouve que c'est vraiment pas normal. Maintenant qu'on puisse dire que les magistrats jugent par rapport
Je ne dis pas ça non plus, mais j'ai exprimé tout à l'heure les troubles. Alors, pour revenir sur la réaction de Nicolas sur Sarkozy sur Facebook, voici ce qu'il a dit exactement. Il a dit « Le droit a été une nouvelle fois bafoué par la méconnaissance des décisions du Conseil constitutionnel. On ne peut pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. C'est la raison pour laquelle j'ai interjeté appel afin que la Cour dise le droit. J'irai jusqu'au bout dans cette quête qui dépasse mon cas personnel, car chacun peut un jour se retrouver confronté à l'injustice. C'est la certitude de la justice, de la justesse de ce combat qui me donne l'énergie, qui permet permet de surmonter les épreuves, etc. Et ça, bon, ben voilà, c'est, il a le droit aussi de se défendre quand même après après avoir été condamné, pense-t-il injustement, et il fait appel. C'est-à-dire qu'un président de la République, il doit ne pas bénéficier d'un régime de faveur, mais pas non plus d'un régime de défaveur, si j'ose dire. Thierry, on marque une pause, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Venez partager votre avis au 32-10. 50 centimes la minute. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier.
C'est le sujet qui vous fait réagir au 32-10 depuis le début de l'émission. Nicolas Sarkozy, condamné hier à un an de prison ferme pour le financement illégal de sa campagne présidentielle perdue de 2012 dans le dossier Big Malion. La réaction du Premier ministre Jean Castex hier soir chez nos confrères de TF1.
Le Premier ministre de la République ne peut pas, ne doit pas commenter les décisions de justice. La justice est indépendante et c'est heureux. Néanmoins, je voudrais vous dire à titre personnel que je voudrais manifester mon amitié et mon affection au président Nicolas Sarkozy, auprès duquel j'ai travaillé pendant près de 2 ans et dont je sais l'engagement qui a été le sien pour notre pays.
Nicolas Sarkozy a fait appel de sa condamnation. Bon, le Premier ministre ne commente pas, mais petite réaction quand même.
Oui, et elle est, comment dire, on a le sentiment quand même que, comment dire ça de manière diplomatique, que le Premier ministre est en empathie avec Nicolas Sarkozy. Ouais. Au minimum, je peux dire ça ou
oui,
pas ?
Oui, ça passe.
Bon, ça passe.
Ah. Ma course contre le temps. Mes amis,
Il y a 3 ans, Charles Aznavour est mort. On pourra lui rendre hommage tout à l'heure. Et cette chanson, effectivement, mes amis, mes amours, mes emmerdes.
On colle à l'actualité.
Comment ?
On colle à l'actualité.
Peut-être s'applique-t-elle un peu à tout le monde, d'ailleurs. Mais principalement à Nicolas Sarkozy ces dernières heures, pourquoi pas ? Donc Thierry, on a terminé avec vous. Jacques, oui, dans le Jura, un petit mot pour de conclusion. Et puis un autre Jacques nous appelle de Paris. Jacques dans le Jura.
Oui, et c'est simplement pour dire que, bien évidemment, les juges sont prioritairement à gauche. Et ça se voit, ça se sent. Et je leur demande simplement de condamner aussi lourdement tous les délinquants qui nous pourrissent la vie de tous les jours dans les cités. Merci, messieurs les juges.
Bah, la difficulté, c'est de généraliser. Quand vous dites les juges, c'est ça qui est toujours compliqué. Certains juges, oui, peut-être. Mais il y a une pensée dominante, peut-être aussi à gauche.
Ah oui, ça c'est sûr.
Qui peut aller parfois sur l'excuse des plus défavorisés et au contraire la non-excuse des cols blancs. Ça peut exister.
Oui, ça existe, malheureusement.
D'un Jacques à l'autre, Jacques qui habite, oui, Paris. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs. Oui, c'est un très joli prénom. Je voulais rappeler d'abord, pour l'avoir vécu personnellement, participer à des financements de campagne, je voulais d'abord rappeler le lien extrêmement étroit qu'il y a toujours entre un candidat et le responsable du financement de sa campagne. Donc, et même s'il délègue, et vous imaginez Nicolas Sarkozy est impliqué dans tout ce qu'il fait, que le caractère qui est le sien, je l'imagine, peut déléguer un sujet aussi important dans toutes les campagnes, le responsable du financement et le candidat, c'est un lien étroit, quasi quotidien. Bon. Donc j'ai du mal à penser qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait. Le deuxième point que je voulais rappeler, c'est que Nicolas Sarkozy a demandé et obtenu la tête de Daniel Bouton quand il était président de la Société Générale à l'époque du dossier Kerviel. Parce qu'il estimait, je pense qu'il n'avait pas forcément tort, qu'un grand patron d'une banque, alors qu'il était strictement pour rien dans les débordements de M. Kerviel, il estimait que voilà, il était quelque part responsable et qu'il devait être sanctionné de ce qui s'était passé. Donc face à un dépassement enfin aussi vertigineux, avec ce que modestement je rappelais,
qui a été remboursé.
Oui, même s'il était remboursé, c'est d'une gravité telle que vous pouvez pas, il peut pas ne pas être condamné, quoi. Il peut pas ne pas y avoir de condamnation, parce que ça veut dire que n'importe quel candidat pour une élection suprême, pour un dépassement aussi important, s'il n'y a pas de condamnation, c'est la porte ouverte à tout. Donc c'est pas possible qu'il ne soit pas condamné. Ça me semble logique et juste qu'il y ait une condamnation. Après les arguties juridiques, on peut pas condamner 2 fois à cassation. Ça, c'est on met ça de côté. Je pense qu'on peut quand même objectivement être tous d'accord pour dire qu'un fait d'une telle gravité, il doit avoir une condamnation. Par contre, la prison ferme, ça c'est scandaleux. je pense que la condamnation elle est logique eu égard au fait, et avec ce lien dont je parle, et lui-même qui a toujours estimé que quand on était patron d'une entité importante, on était responsable, ben, il était le candidat, donc il a une part de responsabilité dans ce qui se passe. Il peut difficilement s'en défausser, il me semble. Par contre, la condamnation, la prison, c'est scandaleux, quoi. Par contre, là, je trouve que là, il faut qu'il y ait une condamnation.
Pour l'exemple, mais alors, quel type de condamnation vous paraissez adapté?
Alors, je ne sais pas si ça peut être une condamnation pécuniaire, si ça peut être une forme d'inéligibilité ou quelque chose comme ça, mais qui soit proportionné. Enfin, la prison ferme, non, ça, c'est vraiment. Je trouve que ça, c'est. C'est scandaleux, quoi. Ça, on va beaucoup trop loin.
Ben merci de tous ces témoignages. Et on va refermer le dossier Sarkozy pour le moment. Nous allons partir pour les pages Facebook. Les pages, parce qu'il y en a plusieurs, bien sûr.
Alors, on n'a qu'une page Facebook, Pascal, voyons.
Oui, mais il y a plusieurs pages Facebook, je l'espère, de nos amis auditeurs. Ah,
bien sûr, Pascal, bien sûr. Non, j'ai pensé que vous ne connaissiez pas bien Facebook, j'ai eu peur. Non.
D'abord, je vous dis bonjour, Olivier.
Bonjour, Pascal, pardon.
Oui, comment allez-vous?
Et vous?
Écoutez, vous apprêtez, c'est toujours un moment important le week-end pour vous, un moment d'évasion, de culture, de curiosité.
Quel est le programme, surtout?
Quel est le programme? Où allez-vous ce samedi, ce dimanche? Parce que la France entière est suspendue.
Eh bien, écoutez, ça fait 2 semaines que je fais le Louvre, Pascal, donc...
Le Louvre.
J'hésite encore sur ma destination du week-end. Donc
mais je suis d'accord avec vous, mais vous ne nous avez pas fait un compte-rendu vraiment de votre visite au Louvre. On ne sait pas quelle salle, notamment, vous visitez.
Celle du fond, à droite, avec Mona Lisa, c'était top. Franchement, celle-ci, c'était la meilleure.
Est-ce que vous êtes allé devant Mona Lisa?
Oui, bien sûr.
Et qu'est-ce qui vous a surpris?
Écoutez, c'était le grain du tableau. C'est ça qui m'a le plus impressionné. Non, je me suis approché au plus
près. C'est un tout petit tableau, surtout.
C'est une définition incroyable.
C'est une définition qui dit n'importe quoi. C'est tout petit, Mona Lisa. C'est un tout petit tableau. Il y a un monde fou. Il est derrière des vitres et c'est un tout petit tableau.
J'étais avec mes jumelles au Louvre. Bah, écoutez, c'était super.
Ah, vous avez des enfants?
Non, des jumelles, l'objet, Pascal.
Ah, pardonnez-moi. Excusez-moi. Que nous dites-vous, ami?
Alors, sur nos réseaux sociaux, Yves écrit « Sarkozy se place toujours en position de victime, ça devient ridicule. Il faut qu'il assume ses actes, à l'inverse d'homme. Nous dit « Ma justice et mon pays me font mal, j'ai honte. Comment peut-on condamner un ancien président ?» Et on termine avec Eric sur notre page Facebook. « De toute manière, il ne purgera jamais sa peine. On le sait tous. »
Il est 13h29, on va marquer une pause. Est-ce que vous avez un animal, Olivier?
Eh bien écoutez, non, Pascal.
Vous n'avez pas de chien?
Encore, non, j'ai du mal à m'occuper de moi-même, donc on verra plus tard pour l'animal.
Et vous n'aboyez pas dans la nuit?
Non, pas tant que
d'accord,
ça.
D'accord, parce que vous avez... Bon, bah, le maire de Bouvincourt-sur-Bresle, dans la Somme, peut vous accueillir avec tranquillité, puisqu'il est interdit de jour comme de nuit de laisser un chien dans un enclos sans que son gardien puisse faire cesser ses aboiements prolongés ou répétés. Donc comme vous n'avez pas de chien, c'est une bonne chose, et comme vous-même n'aboyez pas la
nuit,
vous pouvez donc vous pouvez donc aller à Bouvincourt-sur-Bresle.
Avec plaisir.
Pas.
Mais oui, pourquoi pas au lieu d'aller au Louvre, je vais
exactement.
Aller là-bas.
Vous bien savez sûr. Où c'est Bouvincourt-sur-Bresle?
Alors dans la Somme, Pascal.
C'est dans la Somme. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier, c'est un sujet qui vous fait déjà réagir au standard. La commune de Bouvincourt-sur-Bresle, dans la Somme, a pris un arrêté anti-aboiement. Ah, je savais passer par là. Il est... Ah, vous faites très bien, chien. Couché Médor. Il est interdit de jour comme de nuit de laisser un chien dans un enclos sans que son gardien puisse faire cesser ses aboiements.
Ça se
prolonge ou répéter.
Tiens à dire que ce n'est pas moi, hein. C'est les bruits de Damien Béchiot, si j'ose dire, qui fait des bruitages. Je rassure les auditeurs.
Merci de le préciser, Pascal.
Ah oui, non, on va croire que je j'aboie.
Sous peine d'une amende de 68 euros, une mesure qui fait parler forcément dans la région. Qu'en pensez-vous? Vous ne supportez plus les aboiements des chiens de vos voisins? Cet arrêté est-il absurde? 3210, 3210.
Vous pouvez me faire des petits aboiements de chiens, Damien? Vous en avez quelques-uns dans... Alors ça, c'est un petit chien. Oui. Oh, c'est un gros chien. Et c'est tout? Bon. Ah, ça, c'est un gros chien. Ah, ça, c'est un très très gros chien. Maxime, qui est éducateur canin dans les Yvelines. Que pensez-vous de cette initiative qui est une initiative, disons-le, de bon sens quand même? Tu laisses pas ton chien tout seul aboyer toute la nuit. Tu penses un peu aux autres quand même.
Eh ben bonjour Pascal.
Bonjour.
Écoutez, j'aimerais que plus de personnes pensent comme vous. En effet, que c'est une hérésie de laisser son chien aboyer toute la nuit ou toute la journée, mais malheureusement, c'est une réalité. Donc je trouve que l'initiative de ce maire est une très bonne chose. Ça va permettre à des propriétaires de chiens de bah, soit de se poser des questions, en tout cas intervenir sur ça. Et je trouve ça très bien.
Forcément. Mais vous pensez que c'est assez fréquent ?
Ah oui, 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 oui. Moi-même, habitant une petite commune du 78, j'ai facile, ne serait-ce que dans ma rue, dans la rue parallèle, il y a trois chiens qui aboient non-stop toute la journée.
Non. Mais, ensuite, mais vous êtes allé voir les propriétaires ?
Alors, un des propriétaires est venu me voir pour savoir si on pouvait améliorer ça. Et en fait, je lui ai expliqué que si, tant que le chien n'avait pas une vraie vie de famille et ne rentrait pas à la maison, je n'interviendrais pas sur son chien.
Alors, c'est-à-dire que vous êtes éducateur canin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un chien n'aboie pas dehors ? Vous dites qu'il faut qu'il entre dans la maison ?
Bah, c'est ça. En fait, culturellement, on a cette image du... De nos parents, grands-parents qui avaient un chien dans le jardin et qui faisait sa petite vie comme ça et ça fonctionnait bien, sauf qu'aujourd'hui on a des chiens de moins en moins rustiques, on a beaucoup plus de sélection au niveau des élevages et au niveau des races, donc automatiquement le chien qu'on a connu il y a 20-30 ans aujourd'hui n'existe plus vraiment.
Vous pensez que le darwinisme s'est mis en place aussi vite sur une génération?
Bah, malheureusement, ça fait tellement d'années que le chien vit avec nous que oui, automatiquement, les besoins ne sont plus les mêmes. On parle hein, de chien de famille, on ne parle pas de chien d'utilité ou de chien... voilà, c'est du chien de famille, donc il est fait pour vivre au sein d'un foyer. Ça fait partie de ses besoins physiologiques, hein, le besoin d'appartenance hein, est important chez le chien. Et automatiquement, bah, laisser un chien sans surveillance dehors, il n'a pas d'autres occupations à part s'embêter, si vous voyez ce que je veux dire.
Maxime, donc, vous êtes éducateur canin, c'est-à-dire que les gens viennent vous voir. Ils viennent vous voir pourquoi ?
Oh bah, soit pour de l'accompagnement parce qu'ils ont un chiot et qu'ils n'ont jamais eu de chien et qu'ils veulent être accompagnés et faire les choses correctement, ou dans la plupart des cas, des problèmes de la rééducation. Donc ça peut être de la rééducation de chiens agressifs, de chiens très excitables, chiens qui tirent en laisse, des problèmes de destruction à la maison ou aussi du chien qui vocalise.
Mais ça c'est passionnant, je trouve votre métier vraiment passionnant, mais c'est très...
Alors, entre un moment où... parce que je prenne aussi des chiens sur Paris, en plus.
Ah ouais, moi je trouverais ça passionnant parce que... Admettons par exemple, j'adopte un labrador. Bon, je vais l'adopter à quel âge ?
Ah bah c'est ça dépend. Là, si vous parlez d'une adoption, donc ça veut dire en
quoi d'adoption ? Je vais le prendre à quel âge il faut que je le prenne ?
Alors, légalement, vous pouvez pas adopter un chiot avant ses 8 semaines. Mmh. Donc l'idéal c'est 3 mois. Le chien passe 3 mois avec sa maman, c'est très bien. Et l'éducation peut commencer dès l'arrivée du chiot à la maison.
Alors entre le moment où il rentre chez moi et le moment où je vais quand même pouvoir vivre tranquillement sans qu'il déchire pas tout, sans qu'il casse pas tout, sans que il soit propre comme un enfant finalement, il va se passer combien de temps ?
Alors ça va dépendre aussi de vous. Ça va dépendre de vous et de votre investissement au niveau de votre chien. Vous savez, moi j'ai un collègue un jour qui m'a dit, et c'est une phrase qui m'est restée en tête, il y a deux ennemis à l'éducation d'un chien, la flemme et la peur. Si vous n'avez pas la flemme et que vous n'avez pas peur, votre chien va correspondre à vos besoins très rapidement. Parce qu'il faut savoir que les besoins sont différents d'une personne à l'autre. Vous avez des gens... Allez, on va dire 80% des gens, ils veulent avoir un chien calme et affectueux à la maison, un chien qui est cool, qu'on peut promener facilement, etc. Et comme un enfant, j'ai envie de vous dire, il y a une évolution qui se fait au fur et à mesure des mois, c'est beaucoup plus court. Hein,
mais ça peut être rapide, c'est-à-dire que vous pensez qu'en combien de temps, si on veut un ordre d'idées ?
C'est très compliqué de donner je vais essayer de donner une fourchette. Disons qu'on rentre dans l'adolescence du chien à 6 mois, donc disons que si vous faites les choses très bien, entre 8 ans et 1 an et demi, entre 8 mois pardon, et 1 an et demi, vous avez un chien très sympa.
Ah oui, je suis d'accord, mais c'est quand même entre 8 mois et 1 mois et demi, il peut commencer à attaquer quand même pas mal de choses dans la maison. Hein. Bon, ben, c'est
non,
bien, Maxime.
Forcément. Hein pas forcément.
Non, mais alors, je parle des gros chiens, évidemment, Labrador, Golden Retriever, des chiens comme ça qu'on voit beaucoup à Paris, hein, pour tout vous dire. Et vous savez ce qu'on voit beaucoup à Paris également, c'est.
Des pigeons.
Non, pigeon. Non, mais comment s'appelle ce chien je vais le retrouver après.
Un Saint-Bernard.
Non, mais non, non. Pas dans Paris.
Un caniche.
Non, non, les chiens qui sont très très à la mode aujourd'hui. C'est, je vais retrouver. Je vais retrouver. Je vais demander à Maxime si j'ai raison ou pas. À tout de suite. C'est vendredi et puis je vous voyez, je vieillis. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h42.
Il y a 3 ans, Charles Aznavour nous quittait. Vous pouvez nous parler de vos souvenirs de l'artiste. Et quelle chanson vous parle le plus ?
Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble.
Emmenez-moi ou peut-être.
Vous voyez déjà. En haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos.
Parlez-nous de vos souvenirs avec Charles Aznavour au 32-10-3-1-0.
Maxime, j'ai retrouvé ces chiens que je vois beaucoup dans Paris, c'est les cavaliers King Charles. Et en fait, c'est des chiens, il y a 10 ans, on n'en voyait pas autant. Il y en a beaucoup, beaucoup dans Paris. C'est un chien, je ne sais pas si vous en avez beaucoup, c'est un chien qui aboie pas. Ou peu.
Non, alors... Un chien qui aboie pas, le problème c'est que tout n'importe quelle race peut aboyer. Après, c'est sûr que sur certaines races, il y a des prédispositions. Prenez des chiens de garde de troupeau, et bah, bien sûr qu'ils vont avoir tendance à garder un peu plus qu'en effet un cavalier King Charles.
Ouais.
Et pareil pour les femelles et les mâles. Les femelles auront tendance à garder un peu
mais
plus.
Mais c'est mignon un cavalier King Charles.
Bien sûr, ah, tous oui, les chiens sont mignons.
Je suis d'accord avec vous, mais ça c'est très mignon. Bon, merci Maxime. Daniel est avec nous. Je vous rappelle que pourquoi nous ouvrons ce sujet, c'est parce que la commune de Bouvincourt-sur-Bresle, dans la Somme, a pris un arrêté anti-aboiement. Il est interdit de jour comme de nuit de laisser un chien dans un enclos sans que son gardien puisse faire cesser ses aboiements prolongés ou répétés. Daniel, qui est président SPA des Baux de Provence. Bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce que c'est une bonne chose ?
Alors, moi j'en ai un petit peu marre de ces arrêtés un peu à l'emporte-pièce à partir d'un petit problème. Je préférerais que les maires prennent d'autres dispositions que celle-là.
Bah oui, mais c'est peut-être parce qu'on n'y arrivait pas autrement. J'imagine que c'est parce que ça marchait pas entre voisins.
On peut toujours y arriver. Aujourd'hui, si vous voulez, on est face où plus personne ne supporte rien. Alors, il est bien évident que
chien si vous avez un chien qui aboie toute la nuit à côté de vous, vous êtes rigolo.
Je finis mon discours si vous le voulez. Enfin, mon discours, mon propos, pardon, plutôt. Ce sera plus simple. C'est vrai que des chiens qui aboient toute la journée ou toute la nuit, en effet, c'est insupportable. Et en effet, un chien est fait pour vivre en compagnie et en famille et rentrer à l'intérieur. Avec ça, c'est évident. Mais après, vous allez avoir des gens qui ne supportent pas le chien qui aboie parce que le facteur passe. Et ça, je l'ai vécu personnellement. J'habitais un lotissement et mon chien aboyait quand, en effet, quelqu'un venait devant chez moi. J'étais un bout d'impasse, c'est pourtant. Et j'avais un voisin qui ne supportait absolument pas ça. Et toutes les fois, ben, c'était en effet, il fallait faire taire le chien. Mais le chien aboyait quoi ? Il aboyait que s'il y avait la présence de quelqu'un. Et je n'avais pas tous les jours et toutes les 5 minutes quelqu'un. Donc, on arrive à des, si vous voulez, à des phénomènes un petit peu inverses. Et plutôt que de prendre ce type d'arrêté, vous avez des mairies qui ont des politiques de l'animal et qui font, par exemple, le samedi, des séances d'éducation canine avec un éducateur canin qui permettent de mieux appréhender les besoins d'un animal. C'est quand même peut-être plus intelligent que de mettre des PV, parce que je pense que le voisin qui va avoir le chien qui boit 5 fois dans la journée...
L'un n'est pas incompatible avec l'autre.
Oui.
Là, par exemple, regardez Eric. Eric, on va l'appeler parce qu'Eric, il a déménagé. Bonjour Eric.
Bonjour Pascal.
Là, vous entendez Daniel. Daniel, évidemment, dans un monde idéal, moi je suis complètement d'accord avec Daniel. Mais vous avez été obligé de déménager. Pourquoi Eric ?
Alors, je vous explique. Moi, j'avais un voisin qui avait 4 chiens, 4 setters, dans un enclos à l'extérieur de chez lui, dans son jardin. Et ils aboyaient toute la nuit. J'ai été voir ce monsieur. Et je lui ai expliqué le problème. Il a été très courtois. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, je vais essayer de les calmer. Et ça n'arrêtait pas. Et à chaque fois que j'allais le voir, je lui disais, il faut mettre un collier anti-aboiement. Il me dit, oui, mais par 4, ça fait cher, tout ça. Ben, je lui dis, oui, mais moi, comment je fais ? Je ne dors pas.
Mais lui-même, ce voisin, il ne dormait pas non plus.
Alors lui, il...
Je vous entends pas là. Attendez, je vous entends pas. Ne bougez pas.
Oui, je disais, lui, sa maison était isolée avec des cloisons en alu.
Ah, je vous entends pas, Eric, ça passe mal, ah, ça c'est dommage. Dommage. Ça, c'est dommage. Bon, on marque une pause. On marque une pause de toute façon parce que Jean-Alphonse Richard est là et on va parler du grêlé. Donc ce débat, il nous intéresse et on va le reprendre sans doute après le flash de 14h. Restez avec nous pour le chien, on parlera également de Charles Aznavour. Mais dans une seconde, on parle du grêlé. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
D'habitude, à cette heure-là, vous le savez, Jean-Alphonse Richard vient pour nous proposer le programme de l'heure de crime du 14h30. Mais aujourd'hui, on va également parler du meurtrier de la petite Cécile Bloch, assassinée en 86. On en a parlé dans le journal. Il a été identifié, ce meurtrier. C'est le grêlé. Mm-hmm. Et il a été identifié parce qu'il allait être démasqué. Exactement. Jean-Alphonse Richard.
Exactement. La dernière juge d'instruction, Nathalie Turquet, qui chapeaute ce dossier depuis quelques années maintenant, a décidé finalement un coup de poker. C'est-à-dire qu'on savait que l'homme qui était recherché était probablement un militaire ou quelqu'un des forces de l'ordre, un policier, voire un gendarme.
On savait ça ?
On le savait à cause des témoignages qui étaient donnés par certaines des victimes qui, chaque fois, décrivaient quelqu'un qui présente une carte de police ou une carte de gendarmerie, on ne sait pas, en tout cas une carte tricolore, qui plus est à cause de son équipement aussi. Une victime va décrire qu'il portait deux pistolets à la ceinture et qu'il y avait un holster en cuir qui ressemble étrangement à ceux qui équipent les forces de gendarmerie. Il avait aussi un blouson kaki qui pouvait faire penser à un militaire. Bref, on est allé très vite sur cette piste et la juge Turquet, après des années de recherches infructueuses, a décidé finalement un large coup de poker, c'est-à-dire dire après tout, on va recenser tous les gendarmes qui étaient en poste à Paris à l'époque de ces crimes, et puis on va faire une test ADN à chacun. Ça sera réglé. On aura
tous les gendarmes.
Bien sûr,
il y a,
je crois, autour de 150 gendarmes qui ont été convoqués, si vous voulez. Et
parce qu'on avait un test ADN.
Oui, bien sûr. Il y a une trace ADN. Il y a une marque ADN qui a été lente à se dessiner parce qu'il faut savoir que quand l'affaire se déclare, l'ADN, c'est dans les limbes. Ça n'existe quasiment pas. On a une trace, on a son groupe sanguin. Mmh. On n'a pas d'empreinte digitale parce que la personne porte sûrement des gants en cuir. Mais on va avoir une trace ADN qui va se dessiner. Une trace ADN assez nette qui va laisser beaucoup de traces
Donc
sur ces lieux de crime.
Cet homme savait qu'il serait démasqué.
Ah, il savait. Préféré. Je pense qu'il ne savait pas. Il espérait qu'on oublie cette histoire.
Oui,
etc.
Non, mais. Là, il s'est suicidé. Parce
ah là, oui, bien sûr, évidemment. Ah, évidemment.
Il savait qu'il allait être démasqué.
Évidemment.
Donc, il se suicide. Il s'est suicidé ces dernières heures.
Oui, il s'est suicidé le 29 septembre. Enfin, on l'a retrouvé le 29 septembre. Il a disparu, je crois, le 27 septembre. Il avait été convoqué le 25, reçu sa lettre. Et à partir du moment où il a reçu sa lettre, il est allé dans un appartement qu'il louait sûrement pour ses vacances ou ses week-ends. Et il s'est suicidé, oui, bien sûr. En laissant une lettre qui est d'ailleurs une lettre à la fois de... Non pas de justification, mais une lettre où il reconnaît ses crimes, sans les citer d'ailleurs. Et il explique que finalement, il avait à l'époque, il a eu des pulsions, voilà. Mais que depuis, ces pulsions, elles étaient passées. Il avait su les soigner. Voilà, donc vous imaginez le genre de justification
C'était
qu'on
pas
peut
prescrit.
Donner aux victimes.
Le crime, par
non,
exemple, de,
l'enquête
de
était toujours ouverte. Non, l'enquête était toujours ouverte.
Combien de victimes ?
Alors, il y a de victimes sûres, de meurtres, il y a trois meurtres sûrs. Il y a un meurtre qui reste encore un petit peu ambigu, une jeune femme en 1995. Il n'y a pas eu de trace ADN, mais on lui attribue ce meurtre aussi, peut-être l'enquête le dira. Et puis, il y a six viols également de jeunes filles, hein, donc, et très jeunes filles, hein, autour de...
Donc, il l'avait vu, ces jeunes filles.
Bien sûr, et c'est leur témoignage qui mène sur la piste déjà du grêlé, ainsi que le demi-frère de la première victime, la petite Cécile Bloch, qui lui a vu le grêlé dans un ascenseur. Quand le matin il part, lui, à sa fac ou à son collège, à son université, il part avant sa petite sœur. Et dans l'ascenseur, il croise, dans le monte-charge précisément, il croise un homme qui lui dit « bonjour, bonne journée ». Et c'est cet homme qui va, dans quelques minutes, tuer sa petite sœur. au troisième sous-sol. Et lui a vu le grêlé. Bien sûr. C'est lui qui décrit le premier, ce visage, la peau abîmée, quelqu'un qui n'est pas très bien habillé, qui ne sent pas très bon. D'ailleurs, c'est une constante qui va revenir, avec une mèche sur le front. Donc, il le décrit parfaitement. Et ce portrait robot, ce qui est de saisissant, c'est que ce portrait robot va être reconnu ensuite par d'autres victimes. Quand on va leur présenter plusieurs photos, elles diront « Mais non, c'est lui qui m'a agressé ». Les jeunes filles violées, elles vont le dire. Donc, fatalement, mais sans qu'on arrive à savoir jusqu'à ce jour qui était le grêlé.
Et depuis 95 ou 96, il y avait de nouvelles victimes ?
Normalement, non, mais l'enquête va peut-être en découvrir d'autres, notamment des viols. Est-ce que cette personne a violé des jeunes femmes, a continué à violer des jeunes femmes ? Elle dit, je crois, de mémoire, je crois qu'elle dit dans sa lettre, je me suis arrêtée en 97. Depuis 1997, je n'ai plus rien fait. Mais cette date, elle correspond à rien.
Sauf à l'apparition de l'ADN, nous disait tout à l'heure Monsieur Pascolini.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'à partir de 97, tout le monde a su que l'ADN était identifiable. Et peut-être a-t-il arrêté ou stoppé ses crimes parce qu'il savait qu'il laissait de l'ADN qui aurait été
identifié. C'est possible.
Si
Bernard Pascolini le dit, c'est que c'est vrai. Je lui fais une entière confiance. C'est un grand flic. Et c'est lui d'ailleurs qui a mené l'enquête au début et il l'a très bien menée.
Écoutez, merci. Vous en parlerez la semaine prochaine, je crois. Vous
ferez lundi, on fait une heure du crime spéciale Le Grêlé. On va revenir effectivement sur l'identité de cet homme et puis son parcours.
Et à 14h30 aujourd'hui.
Je vous donne simplement quatre noms. Maria, ouais. Isabelle, Santos, Escobar. Lequel vous revenez là-dedans ?
Escobar.
Vous retenez Escobar.
Déjà, je sais que vous l'avez rencontré.
Et voilà.
Elle était au courant de rien.
C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'elle dit. J'avais peur en fait, hein. Elle se doutait, mais elle n'osait rien dire. Elle n'a jamais osé rien dire. Et aujourd'hui encore, on sent qu'elle vit sous la peur. Il faut dire que le personnage en question, c'est l'un des plus féroces criminels de l'histoire. Hein. Plus de 8000 victimes en Colombie.
J'ai dit tout à l'heure que c'était Bernard Pascolini qui avait donné l'information sur l'ADN. C'est plutôt Corinne Herman, qui est l'avocate de plusieurs victimes.
Ah oui, alors Corinne Herman, avocate.
Qui explique l'arrêt en 97 par cela.
Eh bien, ce
qu'elle nous disait au micro.
Même réponse, si Maître Herman le dit, elle a la science de ce dossier, donc elle doit le savoir.
Il est 13h57. C'est passionnant, ces histoires.
Complètement.
De crimes. Et tout à l'heure, ce sera l'heure du crime à 14h30. Le flash dans une seconde. Il nous reste une demi-heure en ce vendredi. That's good Friday. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 50 centimes la minute.
À la seconde près, il est précisément, exactement, 14h. Suspense. Agnès Bonfillon, Le Flash.
Une école sur 10 fermée aujourd'hui à Marseille. 43 établissements sont concernés par une grève du personnel municipal. Les préoccupations sont les mêmes que celles des éboueurs, à savoir le temps de travail, sachant que les poubelles, elles, devraient être ramassées à nouveau, car un protocole a été trouvé entre la métropole et Force ouvrière, le syndicat majoritaire. Deux jeunes blessés, dont un gravement, dans une fusillade à Saint-Nazaire. Deux jeunes de 18 et 16 ans. Cela s'est passé hier soir dans un quartier du nord de la ville. Cela pourrait être un règlement de compte lié au trafic de drogue. Soupçonné de violence et d'exhibition sexuelle devant deux organisations opposées au mariage pour tous en 2012 à Paris, un non-lieu a été prononcé contre sept militantes féminines ainsi que la journaliste Caroline Fourest qui les suivait à l'époque pour un documentaire. Aucun élément ne permet d'établir que le dessein des mises en cause eût été de blesser ou de menacer, explique le juge d'instruction. Faut-il reconnaître le vote blanc, rendre le vote obligatoire et pourquoi pas dès 16 ans, lancement d'une consultation citoyenne en ligne. Chaque Français peut donner son avis sur les causes de l'abstention et les façons de mieux connaître les motivations des abstentionnistes. Cette consultation est ouverte jusqu'au 30 octobre sur le site de l'Assemblée nationale. Ses résultats seront rendus publics. 9000 suicides chaque année en France, 9000 personnes mettent fin à leur jour. Depuis ce matin, un numéro gratuit, le 3114, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce sont des infirmiers et des psychologues spécialement formés qui sont à l'écoute. Le 3114 s'adresse aux personnes souffrant d'idées suicidaires, mais aussi à leurs proches et les personnes endeuillées par un suicide. La météo. La perturbation du jour va se poursuivre demain entre la Bretagne et la Normandie, en tout cas le matin, puis de l'Atlantique à la frontière belge l'après-midi. Dans l'Est et le Sud, le temps sera de nouveau sec et ensoleillé, en tout cas de façon temporaire. Mieux vaut en profiter. Les températures matinales sont comprises entre 5 et 17 degrés, 5 à Aurillac, 8 à Saint-Brieuc, 11 à Manosque, 12 à Paris ou encore 14 à La Rochelle. Il est 14h02 sur RTL. La suite des auditeurs ont la parole, Pascal Praud.
Merci Agnès. Bon Fillon et bon week-end à vous.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Alors on revient avec ce témoignage d'Éric parce qu'on parle de cet amendement anti-aboiement mis en place par le maire de Bouvincourt-sur-Bresle dans la Somme. Il est désormais interdit de jour comme de nuit de laisser un chien dans un enclos sans que son gardien puisse faire cesser ses aboiements prolongés ou répétés. Et on est avec Éric. Et Éric a dû déménager parce que à côté de chez vous, il y avait 4 setters, c'est bien cela, qui la nuit étaient en train d'aboyer. Je vous posais la question, le propriétaire de ces chiens, lui, il avait bien isolé sa maison manifestement, donc il n'entendait pas les chiens aboyer.
Voilà, c'était très simple pour lui puisqu'il avait une véranda en alu et sa chambre donnait sur l'arrière de la maison. Mmh. Et moi j'étais à l'étage, la chambre à 20 mètres de là, donc j'entendais tout.
Donc vous avez été obligé de déménager. Mais j'imagine les rapports se sont tendus avec ce voisin.
Mais j'ai fait appel à la gendarmerie, sans effet, la mairie, la police municipale. Personne ne voulait s'en occuper parce que ce monsieur était président du club d'entreprise de la ville. Oui. Et donc plus ou moins influent, enfin, toujours est-il que c'était sans effet. Et une nuit, j'étais excédé. Il était minuit et demi, j'arrivais pas à dormir, j'étais sonné. Et il sort, et il me dit qu'est-ce que c'est. Et je dis, je sonnerai tant que les chiens aboieront. Je peux pas dormir, vous ne dormirez pas non plus. Et là, il m'a menacé avec son fusil, c'était toute une histoire. Hein. Et donc j'ai dit, mais moi, mais je ne bouge pas. Et donc ça fait un peu le scandale. Bon, ma femme est venue, elle m'a calmé, voilà. Et donc j'ai dit, il faut que je trouve une solution. La solution que j'ai trouvée, c'est de déménager.
Mais lorsque vous avez vendu votre maison, qu'est-ce que vous avez dit à celui qui l'achetait ?
Ah ben, je ne lui ai rien dit. Ne lui ai rien dit, parce que vous pensez bien que j'avais envie de vendre cette maison.
Mais il vous a rappelé depuis ?
Non, parce que je vais vous dire un truc, c'est que les gens entre eux dans le voisinage, ils veulent pas faire de vagues, en fait.
Oui, mais il supporte les chiens qui...
Ah, mais il a dû se mettre au diapason, parce que moi, j'avais contacté les voisins. J'avais dit, mais quand même, je suis pas le seul à entendre ces chiens. Oui, mais on veut pas faire d'histoire, on veut pas faire... Vous savez comment c'est
Ça dépend, si on peut pas dormir, on peut pas dormir. Si vous étiez à 20 mètres, les autres sont peut-être simplement à... Alors c'était pas toute la nuit quand même.
Mais c'est-à-dire que dès qu'il y avait un bruit, les chiens, ils partaient, et ça durait une heure. Alors évidemment, c'était pas toute la nuit sans continuer, mais quand vous êtes comme ça, vous savez ce qui se passe, vous endormez, et en fait... Quasiment, vous attendez le prochain aboiement. Ouais. Et c'est vrai que c'est une maladie. Terrible. Je me suis renseigné, ça devient une maladie.
Daniel, par exemple, qui était président de la SPA tout à l'heure, Daniel, il était un peu bisounours. C'est un autre animal, bisounours. Mais vous disiez, voilà, faut pas faire, faut pas légiférer, faut pas faire, comment dire.
Attention.
Se passe pas aussi facilement que ça.
Oui, j'ai dit qu'il y avait des arrêtés, en effet, qui me paraissaient un petit peu gadget comme ça, mais qu'en effet, c'était des problèmes de voisinage qui pouvaient quelquefois se régler dans les problèmes de voisinage. Ce que raconte le monsieur, malheureusement, c'est vrai, on le rencontre avec des chiens qui sont bien souvent en chenil, et comme je vous le disais, le chien n'est pas fait pour vivre exclusivement en chenil. Le chien est fait, comme vous l'a dit l'éducateur canin, pour avoir une vie familiale, et c'est bien ce que nous, on désire pour nos animaux, les animaux qui conviennent pour nous adopter, si c'est pour les mettre en chenil, ils sont aussi bien chez nous et on ne les donne pas. Et je suis bien placé pour savoir que les chiens qui sont en chenil sont des chiens qui sont... ça pose de gros problèmes avec le voisinage, mais au-delà de ça, 50% de mes enquêtes portent sur des chiens et les conditions de vie de chiens dans les chenils. Un chien, ce n'est pas fait pour vivre dans un chenil. Le chien, c'est quand on prend un animal...
Nous sommes d'accord, mais là, en l'espèce, Éric, il a été obligé de déménager. Merci beaucoup, Daniel, en tout cas.
Je comprends tout à fait.
Daniel, vous êtes donc président de la SPA. Vous avez des chiens, j'imagine, chez vous?
Oui, bien évidemment.
Quels sont les chiens que vous avez ?
Ah ben moi j'ai eu de nombreux chiens et à l'heure actuelle qu'est-ce que j'ai? Ben j'ai un croisé espagnol tibétain et puis des bulldogs français et un labrador.
Donc et vous avez trois chiens.
J'en ai même quatre. Ouais. J'en ai même quatre en plus de deux. Donc si vous voulez, ben je fais attention en effet de pas gêner le voisinage bien évidemment. Mmh. Mais comme je vous le dis, quand je suis chez moi, quelquefois le chien reste dehors parce que ben voilà, il va se détendre dehors et il rentre, il sort quand il a un petit peu envie. Si j'ai une voiture qui passe, qui est inconnue et qui s'arrête devant chez moi, ben le chien va aboyer. Hein, il se dit tiens, qui c'est celui-là, je le connais pas.
Vous n'avez pas de dog allemand, Daniel ?
Pardon ?
Vous n'avez pas de dog allemand ?
Non, je n'ai pas de dog allemand, mais le problème pourrait se poser de la même manière.
Parce que ça rigole pas.
J'ai eu
pas,
de très gros chiens, j'ai eu des montagnes des Pyrénées qui sont des chiens qui sont aboyeurs, oui. Mais.
Moi, mon amoureuse, elle a des dog allemands. Vous vous rendez compte ce que c'est, des dog allemands ?
Je sais ce que c'est,
ouais. Oui, je peux vous dire que ça fait. J'ai intérêt d'être gentil avec elle, hein, quand.
Oui, voilà.
J'espère que c'est le cas même sans les dogues allemands.
Ça n'a rien à voir avec.
Parce qu'autrement, les dogues allemands, ils vont me manger, hein, moi je vous le dis. Hein.
C'est sûr. Entre un chihuahua et un dogue allemand, vous avez plus de risque de vous faire manger, on est bien d'accord. Non, bon, mais après ce sont des problèmes de voisinage. Et malheureusement, on arrive quelquefois avec des voisins un petit peu extrémistes parce que, on a le phénomène inverse, si vous voulez. Ce monsieur, en effet, était gêné. Je le comprends tout à fait. Et là, ça, c'est même du ressort de la gendarmerie. Hein, parce que les nuisances sonores, ben, elles sont punies par la loi quand même. Hein.
Mais après,
vous avez des gens à l'extrême, si vous voulez, qui poussent leurs voisins à abandonner leurs animaux parce que l'animal, dans la journée, aboie un tout petit peu parce que la personne n'est pas là à un moment donné. Et ça devient c'est les conflits de voisinage. Hein, aujourd'hui.
Ben merci Daniel en tout cas de ce témoignage et bonne journée au Beau de Provence. C'est un sujet qui vous passionne, donc on va sans doute terminer avec les chiens. Mais je voudrais qu'on ait un peu de Charles Aznavour quand
bien
même.
Bien sûr.
Et puis il y a l'euro million.
163
millions. Alors là, vous pourrez avoir plein de chiens, monsieur Boubouk, si vous avez.
Mais si j'ai cette somme, je paye deux greffes de cheveux à Laurent Tessier et Damien Béchiot. Voilà.
Merci Olivier.
Il a pris la confiance.
Hein. Complètement. Et franchement, je suis sûr qu'il vienne lundi par contre.
Plus de respect pour vous quand même. Vous n'avez pas de chien, Damien ?
Du tout.
Bon, et l'ami Laurent non plus ? Personne n'a de chien dans la régie ?
Personne, apparemment.
Qui n'aime pas les bêtes. Qui n'aime pas les bêtes n'aime pas les hommes, monsieur.
Vous aimez les bêtes ?
N'aime pas les gens. Moi j'adore les bêtes.
Moi aussi. Mais j'en ai pas.
Bah oui, mais moi.
Vous avez des bêtes ?
J'ai des bêtes.
Des chiens, je parle. Je parle de chiens.
J'ai pas de bête. Non, parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. Et un chien, faut vraiment s'en occuper.
Mais vous aimez les hommes quand même.
Oui.
Donc
oui,
bien sûr. Bah,
mais évidemment. 14h09, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous sommes avec Laurent Tessier.
Les aboiements peuvent déranger certains, mais un silence fait réagir sur les réseaux sociaux. Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle, était l'invité hier de nos confrères de France 2.
Vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet ?
Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages.
Voilà, aucun trucage, il y a vraiment un blanc de plusieurs secondes juste après la question.
C'est très étonnant ça. Vraiment, moi j'ai été très étonné. Et évidemment, c'est interprétable et d'une certaine manière, ça peut faire sens. Mais nous sommes avec Corinne. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Vous êtes enquêtrice de la protection animale, c'est cela ?
Voilà, oui.
Ça consiste en quoi ?
Alors, donc à partir de signalements qu'on m'indique, donc je rends compte à ma fondation et on me missionne pour aller sur place. Finalement, je suis leurs yeux. Voilà, je vais vérifier si effectivement les signalements sont fondés et si on doit ou non ouvrir une enquête pour maltraitance.
Voilà, c'est ça.
Donc là, moi, je me suis appuyée là pour vous répondre. Finalement, j'ai été chercher mes dossiers et donc sur les 14 signalements qu'on a eu cette année, 10 étaient justement parce que les chiens aboyaient. Donc, les chiens, ils n'ont pas d'autre finalement moyen de dire que quelque chose ne va pas bien, sinon d'aboyer. Alors, donc, les gens sont allés voir parce que justement les chiens aboyaient et effectivement, donc, c'était des conditions de maltraitance, donc soit un mètre de chaîne au lieu de quatre, soit des conditions, ils avaient faim, voilà, c'est aussi ça les aboiements des chiens. Donc je suis un petit peu d'accord aussi avec le maire parce que il a mis dans son article, d'après ce que l'on m'a dit, aboiement répétitif, hein, donc et incessant. Donc là, aboiement répétitif et incessant, ça veut dire effectivement que les maîtres ne s'occupent pas des chiens ou alors ignorent complètement donc les effets que ça peut avoir effectivement sur les riverains. Donc un chien, je suis tout à fait d'accord avec le président de la SPA tout à l'heure, on doit s'en occuper. Donc ce sont des animaux domestiques, même les chiens de chasse. Et voilà, donc les chiens avertissent également par leurs aboiements. Et sur les 4, justement, sur 14 qui n'étaient pas signalés avec les aboiements, c'est tout simplement parce que les chiens n'étaient même plus en condition d'aboyer, parce qu'ils étaient vraiment dans un piteux état. Donc il faut aller voir pourquoi, il faut aller voir la cause. Voilà. Pourquoi le chien boit ?
On a compris que quand le chien il est tout seul dans un enclos, déjà il boit parce qu'il est fait pour être avec sa famille, j'ai envie de dire, ou ses maîtres.
Voilà.
Bon.
Et ou alors
c'est ça qu'on comprend
bien. Voilà. Ou alors c'est des conditions qui ne sont pas idéales, on va dire, pour lui, au niveau nourriture ou matériel.
Nous sommes d'accord,
et
c'est pour ça
qu'il
aboie. Voilà. Vous avez des chiens vous-même, Corinne ?
Alors, j'ai rigolé tout à l'heure quand le monsieur disait qu'il en avait 4, parce que là, moi, vous voyez, autour de moi, j'en ai 8, parce que notre association Que faire des chiens, justement, maltraités. J'en ai un qui a 2 pattes et demie à côté de moi, l'autre qui est aveugle.
2 pattes et demie
Il a été fracassé, il est criblé de plomb, il n'a pas été réparé, entre guillemets. Donc là, maintenant, c'est trop tard. Il est à côté de moi, il a 13 ans, il a été 10 ans à 1m50 de chêne. Et maintenant, il fait dodo à côté du canapé. Donc, je n'ai que des chiens comme ça, parce que comment les faire adopter après, vous voyez ?
Bien sûr.
Des animaux qui ont souffert. Donc, nous avons pris le choix de les garder. Donc, en tout, dans l'association, nous en avons 14. Moi, j'ai des chiens, on va dire, qui ne sont pas très gros, qui peuvent rester près de moi en ville. Et donc, un de mes bénévoles a les chiens de chasse qui ne peuvent plus, de toute façon, être adoptés parce qu'ils ont été traumatisés. Et qui sont maintenant dans de l'espace, etc. Et qui vont être heureux jusqu'à la fin de leur vie. Donc nous avons pris le choix, effectivement, de garder. Mais ça nous coûte très très cher et nous ne sommes pas aidés. Mais voilà.
Merci Corinne.
De rien.
Merci beaucoup. Vincent nous attend dans une seconde.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Olivier chez Facebook.
Sur nos réseaux sociaux, Paul nous écrit « Mes voisins ont 4 chiens et c'est invivable. Il faut sanctionner ces maîtres qui ne font rien pour que cela cesse. » Evelyne partage cette position, un amendement anti-aboiement. C'est la meilleure idée du siècle. Et on termine avec Audrey qui nous dit à l'inverse qu'une telle mesure va démultiplier le nombre d'abandons, Pascal.
Non mais c'est vrai que si tu as 4 chiens en face de chez toi qui aboient toute la journée, c'est pas agréable. Vincent, bonjour.
Pascal, merci de prendre mon appel.
Je vous en prie, vous avez un souci.
Moi j'ai eu un souci il y a quelques années. J'avais affaire à 3 chiens dans mon quartier qui jappaient jour, qui jappaient nuit. Enfin bref, j'ai vécu un véritable enfer. Alors je disais à votre standardiste tout à l'heure, c'est qu'à l'époque j'avais des problèmes de santé, j'étais en dépression nerveuse et ça m'a accentué le stress auquel j'étais confronté. J'en arrivais même à une époque à avoir une inquiétude pour rentrer chez moi le soir, tellement j'appréhendais d'entendre ces jappements. Alors, dans le cas auquel j'étais confronté, ce n'était pas des chiens qui étaient seuls. Il y avait les maîtres qui vivaient à côté, c'était des retraités notamment. Alors, dans un premier temps, j'ai essayé de leur adresser des courriers pour les sensibiliser. Je voulais pas aller discuter avec eux parce qu'en général, bon, le ton peut monter facilement, on peut parfois dire des propos qui dépassent sa pensée. J'ai simplement voulu faire des courriers. Quand les courriers n'ont donné aucun effet, j'ai essayé la procédure du conciliateur de justice. Ça peut être une piste intéressante, mais encore faut-il que les propriétaires de chiens y répondent et se déplacent parce qu'ils n'ont aucune obligation pour le faire. Et dans mon cas auquel j'étais confronté, les gens ne se sont pas présentés. Donc j'ai menacé de porter plainte. Je ne l'ai pas fait évidemment parce que bon, d'une part la police ne se déplace pas et encore faut-il que le procureur donne une suite à la plainte. Donc je me suis heurté finalement à un déni complet de tout le monde. Et les propriétaires de chiens ne pensent pas une chose, c'est que dans un quartier, il peut y avoir des gens qui sont malades, qui ont besoin de repos. Mais alors, j'en arrive encore une fois à conclure que s'il n'y a pas un arrêté municipal qui réglemente ceci, il n'y a absolument rien à faire. J'ai même failli déménager, comme le monsieur de tout à l'heure qui est intervenu sur vos antennes. Mais je ne l'ai pas fait parce que depuis, eh ben, sur les trois chiens, ben, y en a deux qui sont morts et il y en a un qui est parti. Et donc, j'ai eu gain de cause.
Merci Vincent, merci de ce témoignage. Je vais vous lire quelques lignes et vous allez me dire de qui elles sont, Damien Béchiot et puis peut-être toute la régie. « Depuis quelque temps, mon chien m'inquiète. Il se prend pour un être humain et je n'arrive pas à l'en dissuader. Ce n'est pas tellement que je prenne mon chien pour plus bête qu'il n'est, mais qu'il se prenne pour quelqu'un. C'est un peu abusif. Est-ce que je me prends pour un chien, moi ? Quoique, dernièrement, il s'est passé une chose troublante qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me promenais avec mon chien que je tenais en laisse. Je rencontre une dame avec sa petite fille et j'entends la dame qui dit à la petite fille « Va, va caresser le chien ». Et la petite fille est venue me caresser la main. J'avais beau lui faire signe qu'il y avait erreur sur la personne et que le chien c'était l'autre, la petite fille a continué à me caresser gentiment la main. Et la dame a dit « Tu vois qu'il n'est pas méchant ». Et mon chien, qui ne perd jamais une occasion de se taire, a cru bon d'ajouter « Il ne lui manque que la parole, madame ».
Raymond DeVos.
Bravo. Bravo, c'est le sketch de Raymond DeVos sur « Mon chien, c'est quelqu'un ». Il est 14h22. On va terminer avec Aznavour. Marcel et Odile, qui sont des fans d'Aznavour. Mais on l'a très peu écouté, Damien. Un petit peu de chanson d'Aznavour. Marcel et Odile.
Bonjour, Pascal.
Comment allez-vous ?
Ça va bien, un peu stressé, mais bon, voilà. Ça
ouais,
va.
Non, vous bon, allez être formidable.
Ah, bah si, quand même.
Quelles sont les chansons préférées ? Chantez-nous du Aznavour.
Alors, je peux pas chanter, ça peut être évident, quand même. Mais bon, on a. Emmenez-moi au bout de la terre. Enfin, bon, je... Menez-moi au bout de la terre. Menez-moi des merveilles.
Vous l'avez vu sur scène, Marcel et Odile,
Charles Aznavour ? J'ai beaucoup côtoyé, surtout au niveau du Paradou en Provence. Il avait sa maison à Mourières, il venait manger tous les midis l'été, pratiquement au bistrot du Paradou. Et c'était quelque chose, parce que quand il mangeait donc devant Mireille, il y avait une petite table d'hôte à lui, réservée.
Mireille, c'était son épouse ?
Non, c'était la cuisinière, et puis Jean-Louis, c'était le patron du restaurant, quoi.
Pardon.
Et donc, quand il partait, il disait toujours, je vais dire au revoir à mes amis. Donc, il venait dans la salle et il venait nous dire au revoir.
Ah, ben, c'était gentil. On aurait aimé en parler davantage, mais il est déjà 14h24 et c'est l'heure du débrief, figurez-vous. Donc, on vous embrasse, passez un bon week-end, vive Aznavour, Laurent Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Vous savez quoi ? C'est vendredi.
That's good, it's Friday.
Why do you speak English? Very well.
Vous nous aviez caché ça, Pascal.
That's good, it's Friday.
Et je sens qu'aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous sommes très écoutés.
Brigitte Bardot qui nous écoute peut-être.
Oh, quel honneur. Et comme hier, un sujet vous a fait réagir au standard. Nicolas Sarkozy, condamné à 1 an de prison ferme. L'ancien président a fait appel, c'est trop pour Jacques, il y a un acharnement.
Ces juges, je pense, ont hier du sablé de champagne d'ailleurs, en se disant, ça y est, on l'a eu. C'est vrai, ils l'ont eu. Ils lui ont mis un genou à terre, et le combat ne fait que commencer.
Et Jacques est vraiment énervé contre la justice, il ne digère pas.
Et les juges sont prioritairement à gauche, et ça se voit, ça se sent.
La commune de Bouvincourt-sur-Bresle, dans la Somme, a pris un arrêté, tiens, anti-aboiement, anti-waf-waf. Et oui, il est interdit de jour comme de nuit de laisser un chien dans un enclos sans que son gardien puisse faire cesser ses aboiements, prolongés ou répétés. Mettons-nous en condition générique, Damien, s'il vous plaît. Et Pascal, vous avez décidé de parler la langue des chiens. La commune de Bouvincourt-sur-Bresle, dans la Somme, a pris un arrêté anti-aboiement. J'avais passé par là. Vous faites très bien, chien. Magnifique interprétation. Bon, Eric n'en pouvait plus de son côté des waf-waf de son voisin. Il a déménagé, c'était devenu insupportable.
J'étais excédé, il était minuit et demi, j'arrivais pas à dormir, j'étais sonné. Et il sort, il me dit qu'est-ce que c'est. Et je lui dis, je sonnerai tant que les chiens aboieront. je peux pas dormir, vous ne dormirez pas non plus.
Et une question importante, comment sommes-nous traités dans l'émission par Pascal Pro? Vous êtes nombreux à nous la poser. C'est vrai que nos rapports sont un peu étranges.
Vous pouvez me faire des petits aboiements de chien, Damien?
C'est cela, oui. C'est cela, oui.
Et même Olivier, Monsieur Boubouk, a sa question très personnelle.
Et vous n'aboyez pas dans la nuit?
Non, non, pas tant que
d'accord,
ça.
D'accord, parce que vous avez...
Bah, la belle information dans l'émission, Pascal organise des petits jeux inattendus.
Alors ça, c'est un petit chien? Oh, c'est un gros chien.
Un dernier mot, Pascal, avant le week-end.
Vous savez que si je gagne au loto ce soir, j'achète une cornemuse.
Ah, vivement le prochain concert de Pascal Pro. Le débrief pour cette semaine, c'est terminé. Une demande pour ce week-end.
Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles.
Et pour le moment, vous allez nous emmener dans le crime, l'heure du crime, avec Jean-Alphonse Richard, qui s'est entretenu avec Madame Escobar.
Exactement. Je vous emmène en Colombie. Avec celle qui fut l'épouse du roi du crime en Colombie. Oh, criminelle hors norme. Hein.
Et elle n'était pas forcément au courant.
Elle dit que c'était plus compliqué que ça, qu'elle n'osait pas poser de questions surtout, parce qu'elle avait très peur du personnage.
Oui. Même quand t'es Madame Escobar, tu lui dis pas qu'est-ce que tu faisais aujourd'hui.
Non, c'est pas le
qu'est-ce
genre.
Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui,
non,
mon chéri?
Non, pas du tout. C'est pas vraiment...
J'ai tué une vingtaine de personnes.
C'est pas vraiment le style.
J'ai découpé quelques amis.
8000 victimes quand même, hein, le cartel de Medellin.
Oui, donc c'est pour ça qu'il faut mieux pas poser de questions.
Ça plaisante parfois. Pas.
Bon week-end, cher Jean-Alphonse, et à tout de suite.
Merci, Pascal.